Carnet de campagne. Bonjour, nouvelle journée dans le département du Maine-et-Loire. Et comme cette édition s'ouvrira sur une entreprise très solidaire qui construit des séjours vacances pour les personnes handicapées accompagnées de leur famille, je retiens en préambule le travail dans ce domaine réalisé par la ferme d'activité des Mauges. Depuis 10 ans, cette ferme entourée de 10 hectares de terre accueille une quarantaine de résidents en situation de handicap mental. Son atout est la médiation animale, à laquelle s'ajoutent des activités sportives, culturelles et artistiques encadrées par 30 salariés. Pour ces 10 ans, ce foyer de vie organise une opération coup de cœur, coup de pouce, avec une vente aux enchères au profit de l'association de la ferme dont le site est fermedesmauges.com. Pierre Jandot est donc le cofondateur de Estime Voyage, qui propose des séjours vacances très organisés et encadrés aux personnes handicapées. Et il est notre premier invité. Puis nous donnerons ensuite la parole à un jeune viticulteur qui souhaite s'installer moyennant un coup de pouce qu'il va peut-être obtenir grâce à vous.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Pierre Jandot, bonjour.
Oui, bonjour Philippe Bertrand, merci de nous accueillir dans votre émission.
Avec plaisir, avec un petit peu de retard puisque j'ai votre courrier daté du 21 mai 2015 et ça permet de répondre à des auditeurs qui disent « Mais dites donc, les structures qui passent à l'antenne, les associations, les coopératives, vous croyez que ça dure longtemps ?» Bah oui, la preuve, très souvent on rappelle avec un petit peu de retard et voilà, Estime Voyage existe encore, vous l'avez cofondé avec Thomas, le siège est à Cornay, Estime comme une équipe, team de deux personnes, vous avez grossi votre effectif ou vous êtes toujours tous les deux ?
Alors, on est toujours tous les deux dans la conception des voyages et dans ce qu'on propose, mais du coup, on a grossi sur l'accompagnement, où là, par contre, on embauche maintenant des personnes pour accompagner les personnes durant leur séjour.
Ouais, vous accompagnez des personnes qui sont en famille ou avec des amis qui désirent partir en voyage, mais qui sont handicapées. Ça peut être un handicap moteur, sensoriel ou mental. Vous avez des lieux de séjour, vous avez un service d'accompagnement, de suivi. C'est tellement lourd, je ne sais pas comment vous organisez pour assurer ses séjours ici ou ailleurs.
À la base, nous, on est issus de formations spécialisées dans le handicap. Donc, ça nous a permis effectivement de mieux anticiper les différents besoins que peuvent avoir les personnes en fonction de la pathologie qui les concerne. Et après, on conçoit en fait tout le séjour avec elles. On ne fait pas les choses de notre côté. On est vraiment en relation avec les vacanciers pour qu'ils puissent garder vraiment le choix sur les différents éléments de leur voyage. Donc, nous, on va simplement les épauler, leur proposer un nombre de solutions quant aux hébergements, aux activités, à l'accompagnement. Mais c'est eux qui restent maîtres et qui valident l'ensemble des propositions que nous leur faisons.
Ouais, je vois tout ce que vous proposez. C'est une aide au financement des vacances. C'est la personnalisation du voyage. C'est l'accompagnement sur mesure avec des activités sportives, culturelles, adaptées, encadrées. Je me demande ce qui est le plus difficile à faire. Si c'est la mise en place de ça ou c'est de trouver des sites de séjour adaptés.
Ça va vraiment dépendre de la destination. À chaque fois, le problème est différent. La difficulté est plus ou moins grande en fonction du lieu où on veut se rendre. Mais effectivement, après, ça va être à nous de trouver les solutions et de parer en fait à toutes les éventualités pour que tout se passe bien et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises et vraiment accompagner tous les vacanciers pour qu'ils puissent s'y retrouver et passer de bonnes vacances au final avec les attentes qu'ils en ont.
Ouais, mais alors, ces lieux vous impliquent quand même beaucoup de garanties. Comment vous arrivez à convaincre vos partenaires ?
Quand on peut, on se déplace. C'est l'idéal quand on peut se rendre sur le lieu du séjour, regarder un petit peu comment ça se passe, comment on peut travailler, ce qu'on peut mettre en place. Et sinon, en fait, on travaille avec des partenaires qu'on met du temps à trouver, mais qu'on arrive généralement à trouver quand même. Et on est en relation avec eux pour mettre en place, effectivement. C'est notre point d'appui sur les différents lieux qu'on peut proposer. Et c'est eux qui vont nous guider aussi à distance.
Ouais. Alors, la mise en place, je disais, est lourde parce que, comme vous l'avez signalé, il y a un accompagnement sur place. Alors, ça peut être un accompagnement pour des soins médicaux, mais c'est aussi une prise en charge la personne handicapée pendant le séjour de façon à donner un peu de répit aux accompagnants, amis ou familles.
C'est ça, il y a vraiment l'accompagnant qui va permettre à des parents, notamment ayant un enfant en situation de handicap, de pouvoir profiter de moments privilégiés ensemble sans que le poids du handicap ne devienne une contrainte, en prenant en charge les préparations du matin, l'aide à la toilette, des choses comme ça. Et on a après l'accompagnement effectivement aussi médical. Donc là, on met en place des interventions infirmiers, infirmières pour effectuer les soins qui sont nécessaires pendant le voyage.
Il y a 7 destinations ouvertes et prévues en cette année 2018.
Alors ça concerne un public très particulier parce qu'on s'adresse sur ces 7 destinations-là à des adultes ayant une déficience intellectuelle légère ou modérée, avec la possibilité, là, du coup, d'avoir des lieux qui sont prédéfinis et des activités plus ou moins proposées. Et les personnes ne se connaissent pas forcément, mais vont faire connaissance pendant toute la durée du séjour. Et là, il y a un accompagnement, effectivement, qui leur permet d'accéder à l'ensemble des activités proposées.
Ouais. Pierre, vous avez une image d'un retour de séjour avec le sourire sur le visage des bénéficiaires et puis peut-être des réactions très positives?
On a une proximité assez vraiment importante avec l'ensemble des vacanciers. On les connaît tous, on sait après ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, leurs besoins, et ça nous permet de vraiment adapter au mieux les séjours qu'on propose. Et effectivement, pour l'instant, on a plutôt des retours vraiment positifs avec des personnes qui reviennent d'année en année, avec des projets de plus en plus farfelus ou des destinations de plus en plus éloignées. Et du coup, c'est l'intérêt aussi de ce qu'on propose.
Et ce service est valable pour toutes les régions de France?
Toutes les régions de France. Alors c'est vrai que pour l'instant on a plus de vacanciers qui sont situés dans le Grand Ouest parce que c'est là qu'on est installé. Mais après, c'est pas du tout problématique pour des personnes qui se situent autre part en France.
Bravo en tout cas pour l'initiative Estime Voyage. Vous allez trouver nos pages d'émission, le lien avec la page Facebook et le site estime-voyage.fr. Merci Pierre.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Être enseignant et s'appeler scolastique prouve encore une fois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Sylvain Scolastique est professeur de musique au collège Jacques Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe dans le nord du département et il a été dénoncé par Isaline. Beau prénom aussi, merci Isaline. Or cet établissement présente la particularité de posséder, chose unique en Europe pour un collège, un gamelan javanais offert par l'ambassade d'Indonésie. Selon les informations de notre correspondante, il s'agit du deuxième gamelan offert à la France depuis l'exposition universelle de 1889. Un gamelan, c'est un peu plus qu'un simple instrument, puisqu'il est composé d'une série d'accessoires de percussion, des gongs, des cymbales, des métallophones, un peu plus sophistiqué que celui du jeu des 1000 euros, des xylophones, des percussions multiples et variées. Bref, le gamelan est un orchestre d'instruments qui, selon la dimension, peut tenir dans un semi-remorque et qui se joue à une quinzaine de musiciens. Depuis plusieurs années, collégiens et écoliers peuvent donc pratiquer la musique dans des conditions rares en France grâce à cet instrument. Ils ont pu ainsi présenter un spectacle à Angers l'année dernière et le défi de cette année est d'installer le gamelan sur une péniche afin d'organiser des concerts au fil de l'eau. L'ultime étape serait de pouvoir investir un des hauts lieux culturels du département, à savoir l'abbaye de Fontevraud. Vous allez trouver à notre page d'émission Carnet de campagne sur franceinter.fr et à notre page Facebook aussi un lien avec un article et une interview donc de Sylvain Scolastique. Et toujours dans la catégorie le pouvoir des patronymes sur les métiers et les vocations, j'appelle Romain Verger. Bonjour.
Bonjour.
Romain, grâce à Lucie Bijoutière à Chalonne-sur-Loire, votre amie, nous connaissons votre projet. Donc vous vous installez en viticulture biologique et biodynamique à Faye-d'Anjou, en Maine-et-Loire. Vous êtes natif du département et formé déjà à la viticulture?
Alors justement, je ne suis pas formé à la viticulture, je suis à la base, je suis pépiniériste. Et après ma formation bac pro de pépinière, j'ai découvert une multitude de métiers liés à la nature et notamment la viticulture.
Ouais.
Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille uniquement dans des domaines en bio et notamment dans les vins dits naturels.
Ouais.
Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille la vigne, que je travaille le végétal, le sol et le vin.
Ouais. Et le
découvert le vin en tout cas. Ouais.
Et le végétal, c'est logique quand on s'appelle verger.
C'est ça.
Ouais. Vous êtes d'une famille de paysans.
Oui.
Donc vous avez quand même une transmission de savoir-faire par vos parents et grands-parents.
Parents, grands-parents, oncles et tantes, oui, j'ai déjà un pied dedans, un grand-père qui était commis, un autre grand-père qui était paysan, et de l'autre côté, c'était plutôt le travail de l'animal en boucherie et charcuterie.
Ouais. Quel est votre projet alors, Romain?
Alors moi, mon projet aujourd'hui, c'est d'acquérir des terres pour me permettre de faire mon vin, avant tout, et de contribuer à obtenir des terres qui soient plus saines demain. Donc moi je vais utiliser de moins en moins de soufre et de cuivre, donc travailler en phytothérapie, en biodynamie et à côté je fais de la géobiologie, donc ça me permet de connaître un petit peu l'état du sol, à l'intérieur du sol, les sources et ce qui pourrait manquer en oligo-éléments. Ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est à titre d'étude, on va dire.
Et vous avez déjà une idée des terres qui seraient utilisables ?
Oui, j'ai rencontré un vigneron qui m'a parlé qu'il y avait des terres à vendre. Donc j'ai vu les terres, c'est un très bel endroit avec des voisins qui ont un petit jardin avec une petite mare. Non, je trouve ça très joli. Et les terres sont réservées aujourd'hui, donc elles sont réservées jusqu'au vendange 2018. Quand j'aurai la somme obtenue, je pourrai acquérir ces terres à partir des vendanges.
Ouais. D'où le financement participatif qui court en ce moment jusqu'au 27 Exactement. Février, si vous voulez participer à ce projet de Romain. C'est un projet de Romain d'ailleurs, tiens aussi, parce que vous êtes dans une zone où il y a une viticulture importante, bien enracinée, dans tous les sens du terme. Quand on est micro-vigneron, comme vous vous définissez, quel est votre avenir? Comment vous allez trouver une place au milieu de ces territoires et de ces terres viticoles?
Disons que moi, j'ai pas un marché déjà établi, mais j'ai avant tout envie de faire un vin de copain, donc permettre de faire un vin qui soit pas cher, qui soit populaire. J'ai un contact sur Paris qui permet d'écouler, on va dire, les vins assez facilement dans des restaurants et des autres caves à vin qui vendent des vins sans soufre et des vins naturels.
Mmh. Vous imaginez plus loin quand même quelque chose qui pourrait être une nouvelle entité, de réunir des vignerons de votre profil, de créer un lieu, une cave solidaire, coopérative?
Alors l'idée, c'est que mes parents ont un bâtiment de 1000 mètres carrés qui cherchent à vendre depuis des années et des années, et je trouve que c'est un peu compliqué pour eux, donc je vais faire ma cave dans ce bâtiment, et je n'ai pas besoin de 1000 mètres carrés, donc si ça pouvait réunir différentes personnes qui auraient des projets en viticulture ou autres métiers liés à la nature, et permettre auprès d'une entité, peut-être une association, d'avoir un bâtiment alloué pour des activités agricoles, si c'est possible, en bio, ce serait encore mieux, quoi.
Vous voulez transmettre certaines valeurs à votre fille, j'ai cru comprendre.
Alors moi, je suis un amoureux de la nature. Oui. Depuis tout petit, je vis dans la campagne. Mon père était chasseur. On partait avec un petit panier cueillir des champignons et puis les fruits qui poussaient un petit peu partout, et notamment dans les haies. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça fait 30 ans que je vois l'agriculture, comment elle se développe auprès de chez moi. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus rien. Et j'ai envie de faire découvrir à ma fille et surtout lui apporter la valeur du vivant, c'est de respecter ce qui nous entoure et de montrer que tout peut être disponible auprès de soi. C'est vraiment ce qui pousse auprès de chez nous qui est le plus important.
Ouais. Et le projet s'appelle « Les lignes de la vigne ». C'est bien trouvé. Sur la plateforme zest.coop et .fr, vous allez trouver, donc, et on va vous la mettre en lien, la plateforme de financement participatif. Et puis l'avenir dans les lignes de la vigne.wordpress.com pour le site, pour suivre l'avenir de Romain, son parcours, et puis l'avenir et l'ouverture à cette nouvelle production de vins locaux en biodynamie, entre autres. Merci Romain.
Merci à vous.
Demain dans le Maine-et-Loire, la bulle ambulante, une roulotte hippomobile pour faire circuler des ateliers ludiques à destination des enfants dans les villages. Et puis une autre société, elles sont nombreuses, citoyennes de production d'énergie verte, qui s'appelle Coat. Je vous signale à nouveau que ensuite nous serons dans le Loir-et-Cher, puis le Var, le Gard, l'Hérault et la Charente. On reste en Maine-et-Loire, Bousillé, Nicolas Soufflet, le jeu des 1000 euros.